quand soi-même on est plutôt petit. Donc comment aller chercher des prospects de taille significative quand nous-mêmes, nous n'avons pas tous les moyens marketing et commerciaux d'un grand groupe. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par des éléments que je pense vous connaissez tous, mais qui sont toujours sympathiques de rappeler, les principales caractéristiques du marché B2B en France avec quelques chiffres clés. Ensuite, on abordera quelques pratiques gagnantes, et puis pour finir, on illustrera ce qu'on est capable de faire avec un outil comme le nôtre, comme NomiOne. Alors aujourd'hui en France, le marché du B2B, il y a deux manières de le voir. Soit vous regardez les chiffres de l'INSEE et vous vous dites qu'il y a 5 millions d'entreprises en France, c'est un marché énorme. En fait, si on regarde non pas le volume mais la valeur, les proportions n'ont rien à voir. Aujourd'hui en France, il y a 50 000 entreprises qui pèsent plus de 80% de l'activité économique. Donc concrètement, ça veut dire que le vrai marché du B2B en France, ce n'est pas 5 millions d'entreprises, c'est plutôt 50 000. Et dans ces 50 000, on compte les grands groupes, leurs filiales, les filiales d'entreprises étrangères, toutes les ETI, les fameuses entreprises de taille intermédiaire, et ce qu'on appelle les grosses PME, ou les PME en croissance. Donc des PME de plus de 50 ou 100 salariés. Donc ça représente moins d'1% du total des entreprises en France, et pour autant, ça représente 80% du PIB. Donc globalement, aujourd'hui, le marché du B2B en France, à moins que vous souhaitiez adresser à des TPE, des artisans, des commerçants, le vrai marché du B2B en France, en termes d'entreprise, c'est 50 000 entreprises. Donc en termes de business plan, en termes d'approche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'approche mass market, l'approche globale, elle ne fonctionne pas. On doit être ciblé, on doit identifier ce qu'on veut trouver, et on doit aller harponner ces cibles-là. Trois autres chiffres intéressants à partager ensemble aujourd'hui. Le premier chiffre, c'est 4. 4 comme le nombre moyen de décideurs dans une prise de décision, dans une entreprise. Donc ça veut dire concrètement que même si vous avez une porte d'entrée, il ne faut jamais vous arrêter là. Vous avez besoin, à minima, en moyenne, de 4 contacts dans une entreprise pour obtenir une prise de décision. Il y a des gens qui font des études là-dessus et qui montrent que chaque année, ce chiffre augmente. Le process de décision dans les entreprises et dans les entreprises au sens véritable entreprise, donc plus de 50, plus de 100 personnes avec des vraies structures, les process de décision sont toujours plus complexes d'année après année. À côté de ça, il y a un autre chiffre de 79%. 79%, c'est un chiffre intéressant parce que ça donne entre guillemets un peu d'espoir. C'est le fait que souvent, le premier fournisseur dans la place, presque 8 fois sur 10, c'est celui qui signe. Le premier arrivé, premier servi. C'est une vieille règle du commerce, mais qui est toujours vraie aujourd'hui. Si vous appelez quelqu'un au moment où il a un problème, un sujet, une recherche de fournisseur, si vous l'appelez à ce moment-là, parce que vous avez eu la bonne information, vous avez de très fortes chances que la personne, sur des montants qui ne sont pas énormes, traite directement avec vous. Premier arrivé, premier servi. Et puis, pour contrebalancer ça, le dernier chiffre, c'est 8,4. Alors 8,4, c'est quoi ? C'est un chiffre de persévérance. C'est le nombre de fois en moyenne où il faut essayer d'appeler quelqu'un pour l'avoir au bout du fil. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous connaissez tous, que tous ceux qui ont fait de la prospection en B2B recentrent le besoin de persévérer, le besoin de passer les coups de fil qui aboutissent jamais. Donc 8,4 coups de fil en moyenne pour avoir quelqu'un au téléphone. Et donc par rapport à ça, évidemment, la prospection a des difficultés récurrentes. La première difficulté d'une bonne prospection en B2B, c'est très classique, c'est quelle est ma cible? Comment je fais pour identifier les 50, les 100 entreprises qui m'intéressent à un instant T pour mettre en avant ma prestation, mon produit, mon service? Je suis un coach, je propose des séances de coaching pour des cadres. À qui je dois m'adresser? Quelles sont les entreprises pertinentes pour moi? Et aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que sur ces types d'entreprises, donc les 50 salariés et plus, les indicateurs classiques sont un petit peu défaillants. Le code NAF, c'est très bien quand vous allez essayer d'identifier des boulangers. Par contre, c'est beaucoup moins pertinent quand vous essayez d'identifier des vraies entreprises. Pourquoi? Juste un petit chiffre clé. Aujourd'hui, sur les 5000 premières entreprises de France, les deux tiers sont affectés à un code NAF qui s'appelle « Autres activités de sièges sociaux ». Donc ça veut dire que si vous cherchez des codes NAF, vous avez de très très fortes chances de ne jamais identifier les vraies entreprises, donc les entreprises de taille significative. Idem, on a tous l'habitude d'utiliser le chiffre d'affaires comme, on va dire, seuil quand il s'agit de définir des cibles de prospection. Là encore, le chiffre d'affaires, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux en France ne publie pas son bilan. Donc, pas de bilan, pas de chiffre d'affaires. Une toute petite entreprise que personne ne connaît, par exemple, vente privée, officiellement fait 0 euro de chiffre d'affaires. Ils n'ont jamais publié un seul bilan. Pour autant, on sait tous aujourd'hui que vente privée, c'est une vraie belle entreprise, avec plein d'opportunités business pour plein de gens. Donc, comment on fait pour identifier des cibles, sachant que les données classiques ne fonctionnent pas ? Deuxième difficulté, une fois que j'ai identifié la cible, c'est trouver les contacts à l'intérieur. Qui est décideur ? Aujourd'hui, il y a quelque chose de magique qui s'appelle les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de pub ni à l'un ni à l'autre, mais on se dit l'information est là. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on est tous managers, on est tous vice-présidents, on est tous responsables. Pour la blague, essayez de regarder sur un réseau social américain de couleur bleue et essayez de retrouver les directeurs marketing de L'Oréal. Vous en avez 128 en France. Il n'y a pas 128 directeurs marketing de L'Oréal, même en comptant les filiales, même en comptant très large. En fait, le vrai problème, c'est comment, à l'intérieur de toute cette masse d'informations, je trouve les bons décideurs. Comment j'évite de m'épuiser à essayer de contacter ces 128 soi-disant directeurs marketing de L'Oréal, quand moi j'ai besoin d'avoir le directeur marketing, non pas de L'Oréal, mais de la BU qui s'occupe, par exemple, des produits capillaires, parce que moi, c'est le sujet qui m'intéresse. Et puis toujours la même chose, hein, une fois que j'ai le nom d'une personne et que j'ai un super 0800 comme numéro de standard, comment je fais pour basculer de ce standard et être mis en relation avec le décideur ? Donc, qui est décideur et comment je fais pour l'adresser ? Et puis, par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable, c'est le taux de réussite de la prospection. Aujourd'hui, on va dire, l'intensité de la prospection augmente. Il y a une espèce de course à l'armement, que ce soit dans les grands groupes, mais aussi aujourd'hui de plus en plus sur des entreprises de taille plus réduite, de taille intermédiaire, sur des outils de plus en plus sophistiqués pour prospecter. Ce qui fait que le nombre de messages publicitaires, le nombre de sollicitations commerciales auxquelles est exposé un décideur augmente d'année après année. Et quand j'ai le même nombre de décideurs et que j'ai une pression marketing qui augmente, qu'est-ce qui se passe ? Bah, l'efficacité, elle baisse. Aujourd'hui, on est à moins de 0,5% d'efficacité, par exemple, sur une action d'emailing, en moyenne. Donc, par rapport à ça, comment faire pour lever ces freins ? Comment faire pour dépasser cette histoire ? Et donc, chez NomiOne, on a interrogé un certain nombre d'experts, de praticiens de la vente B2B. On a essayé d'identifier, eux, leurs pratiques de manière très pragmatique, très opérationnelle, pardon, pour savoir comment ils faisaient pour essayer de lutter contre ces freins et essayer de les dépasser. Clairement, il y a quelque chose qu'on a tous en tête, c'est l'équation de la performance. L'équation de la performance commerciale, elle est très simple. Aujourd'hui, hier, demain, ça sera toujours la même. Il est toujours plus facile de décrocher un rendez-vous quand j'appelle la bonne personne dans la bonne entreprise, que j'ai la bonne information, en particulier un numéro de téléphone, et en particulier si c'est sa ligne directe, et si j'appelle au bon moment. Si je réunis ces trois critères, évidemment, c'est plus facile de prospecter. Donc la vraie question, c'est comment je fais pour aller chercher la bonne cible, la bonne information et le bon moment. Donc là, on a essayé de mettre sur papier quelques retours d'expérience qu'on a pu partager avec des gens qui font de la prospection, et y compris des gens qui ne sont pas dans des très grands groupes. Souvent, on entend beaucoup parler de gens qui sont commerciaux chez Dell, grands comptes, et qui vous expliquent comment faire. On n'a pas tous la chance d'être chez Dell, d'avoir une marque aussi connue et d'avoir une puissance de feu marketing et commercial. Donc là, on est plutôt allé interroger sur, entre guillemets, des petits, des indépendants, des freelances, des consultants, des coachs, des gens qui doivent faire leur propre business tout seuls, avec comme seule arme leur intelligence et leur retour d'expérience. Donc, sur la bonne cible, l'enjeu, c'est de se définir un segment. Qu'est-ce que vous voulez travailler ? Est-ce que vous voulez travailler des PME, des ETI, des grands comptes ? Ne cherchez pas à définir des notions de chiffre d'affaires, notamment sur les entreprises qui ne consolident pas forcément leur bilan. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, si par exemple vous regardez le chiffre d'affaires de Facebook France, le chiffre d'affaires de Facebook France est proche de zéro. Pour autant, la capacité d'engagement budgétaire de Facebook France sur à peu près tous les sujets du monde est juste énorme. Donc, définissez des segments et essayez de vous y tenir. Essayez de trouver des outils qui vous aident à travailler par segment prédéqualifié plutôt que simplement par niveau de chiffre d'affaires. Après, il y a une autre notion qui est toujours intéressante quand on travaille dans le B2B, c'est explorer les grands comptes. Aujourd'hui, en France, des grosses entreprises, donc au sens INSEE, c'est plus de 5000 salariés, il y en a 242 en France. Vous allez me dire, c'est vraiment pas beaucoup. Et évidemment, si vous arrêtez aux têtes de groupe, votre prospection, elle va vite s'arrêter. Parce que le terrain de chasse, il n'est pas si énorme que ça. Par contre, si vous explorez non pas juste les têtes de groupe, mais que vous redescendez au niveau des filiales, ces 250 entreprises de plus de 5000 salariés, en fait, c'est 12500 entités différentes. Parce qu'il y a des filiales, des sous-filiales, des BU. Donc, en gros, si vous avez décidé de vous attaquer à la BNP, ne vous arrêtez pas à la BNP, mais explorez l'intégralité des filiales. À l'intérieur de la BNP, il y a des filiales de toute taille, il y a des enjeux, des besoins que vous pouvez vous couvrir à titre individuel. Et puis, quand on a la chance d'avoir des premiers clients, il y a quelque chose qui marche toujours très très bien, c'est dupliquer ses succès. Vous avez convaincu un DAF dans une entreprise industrielle, gardez cette belle référence et essayez d'identifier tous les concurrents de votre client. Il se trouve que si vous avez réussi à convaincre votre premier client, il y a de très fortes chances que les concurrents de ce client aient à peu près les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et donc vous savez leur parler, puisque vous avez réussi à parler de manière positive au moins une fois en décrochant ce fameux client. Ne vous arrêtez pas à ce premier client, dupliquez vos succès. Et donc pour ça, ça veut dire être capable justement d'aller identifier de manière fine les concurrents de son client. A l'inverse, évitez de prospecter tous azimuts et essayez d'éviter de vous disperser et de vous épuiser à rechercher toujours un nouveau pitch, un nouvel argumentaire commercial. Quand vous tenez quelque chose et que vous avez des premiers succès, des premiers rendez-vous, des premiers contrats, des premiers devis, creusez votre sillon. Après, la bonne information. Alors, c'est une lapalissade, évidemment, mais si vous pouvez avoir des coordonnées directes, évidemment, il ne faut pas se gêner. Aujourd'hui, le métier des standards et des assistants, c'est souvent filtré. C'est ne pas passer, surtout à des fournisseurs, qui n'ont pas un beau nom. On reprend l'histoire du commercial chez Dell. Quand je suis commercial chez Dell et que j'appelle à la direction informatique de n'importe quelle entreprise, quelqu'un va me répondre. Si je suis Pierre, consultant expert en sécurité informatique qui vend des prestations en freelance, ça va moins marcher si j'appelle le standard, évidemment. Et puis, comme on disait tout à l'heure, la bonne fonction est surtout le directeur. N'essayez pas de taper entre guillemets à l'intérieur d'une direction au sens large, mais essayez tout de suite de remonter à la prise de décision. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite et c'est au final pas plus compliqué d'avoir au téléphone le décideur que d'avoir quelqu'un dans la direction. Donc essayez directement d'avoir le bon contact. Et puis dernier point, toujours hyper important, le background. On parle pas à quelqu'un qui est dans la boîte depuis 15 ans que quelqu'un qui vient d'arriver. On ne parle pas à quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le même secteur d'activité que quelqu'un qui a pu voir d'autres secteurs d'activité. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui vient de changer de fonction, qui avant était DAF et qui maintenant est DRH, on ne lui parle pas de la même manière. Donc, argumentez différemment, préparez votre discours en fonction du background de la personne. Là encore, quand on est en face à face, naturellement on le fait, naturellement on s'adapte à son auditeur. Quand on fait de la prospection par mail ou par téléphone, il faut appliquer à peu près les mêmes principes. Et puis le bon moment. Alors, l'alternative au bon moment, c'est quoi? C'est l'appel à froid. L'appel à froid, c'est j'ai un nom et j'essaye. Au hasard, le matin, l'après-midi, le lundi, le vendredi. Et j'essaye jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc on l'a vu, j'essaye au moins 8 fois avant d'avoir la personne au téléphone. Il y a d'autres solutions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des outils d'intelligence commerciale qui vous permettent de détecter des moments plus favorables que d'autres. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber bon à tous les coups, mais ça veut dire que vous allez pouvoir maximiser vos chances. Pour ça, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de quoi parlent le mieux les gens, c'est d'eux-mêmes. Donc essayez d'identifier des actualités qui touchent à vos interlocuteurs. Et il y a une actualité géniale qui touche les gens de manière très directe d'un point de vue business, c'est leur actualité RH. Quand un nouveau directeur prend son poste, son patron lui dit rarement « Écoute, on a viré ton prédécesseur, il était nul, toi surtout, tu n'as aucun objectif, aucune contrainte, tout va bien, fais comme lui. » Évidemment non. Quand un nouveau directeur prend son job, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit « Tu as des objectifs, tu as une feuille de route à construire, tu as des moyens, vas-y, fais des nouveaux, lance des projets. » Donc si vous arrivez au moment où, où ce fameux directeur a pris son poste et que vous lui proposez quelque chose d'un peu innovant, un peu différenciant, et que vous arrivez à avoir un discours à valeur, il va être beaucoup, beaucoup plus à l'écoute de votre proposition. Si c'est quelqu'un qui est en poste depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'il bosse avec les mêmes fournisseurs, et pourquoi il changerait ? Après, on peut se servir de choses un peu plus rigolotes, comme par exemple les prises de parole en public. Aujourd'hui, en France, il y a 20 ou 30 000 prises de parole en public de cadres et de cadres expérimentés de grosses boîtes. Par exemple au salon SME, mais il y a plein d'autres événements. Vous voulez absolument rencontrer le DAF d'une des filiales de L'Oréal. Je sais pas, j'aime bien L'Oréal ce matin. Donc vous voulez absolument le rencontrer. Il ne répond pas à vos mails, étonnant. Il en reçoit 80 par jour au minimum. Vous n'avez pas réussi à avoir sa ligne directe et vous ne passez pas le standard. Mais si vous êtes capable d'identifier que cette personne sera présente, par exemple, au Hub Forum dans 15 jours, Porte de Versailles, si vous avez un petit peu préparé votre histoire, allez au salon, écoutez le monsieur parler, et à la fin de la conférence, vous l'attrapez. Et vous savez quoi ? À la fin de la conférence, on a tous un peu de temps à consacrer, on est, entre guillemets, un peu hors business, et c'est le bon moment pour aller choper cette fameuse carte de visite et de faire cette première bonne impression. Et ça fonctionne. Et si vous n'avez pas la possibilité d'assister au salon, à minima, quand vous l'appelez ou quand vous faites un mail de prospection, faites référence à sa prise de parole. « Monsieur, vous avez pris récemment la parole sur tel sujet dans tel salon. Sachez que moi-même, j'ai des solutions autour de ce que vous avez évoqué. Parlons-en. » Et puis, dernier élément, l'actualité de l'entreprise. En ce moment, appeler Alstom pour leur proposer des choses, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Enfin, ça ne l'était pas. Maintenant, ça l'est peut-être un peu plus. Mais là, c'est pareil, c'est du bon sens. Suivant ce qu'on vend, on appelle soit une entreprise en bonne santé, soit une entreprise en difficulté. Si vous avez une solution qui va permettre de réduire les coûts, en fait, n'appelez pas une entreprise en croissance. Elle sera moins intéressée qu'une entreprise qui a des difficultés. Donc, par rapport à ça, on a essayé de développer un outil qui s'appelle NomiOne, qui a pour ambition, et on espère une réalité, de répondre à ces différentes problématiques et intégrer ces bonnes pratiques en termes d'outils. Donc notre promesse, c'est accéder aux bons décideurs. Concrètement, on a créé une base de données de plus de 200 000 décideurs en France. Alors c'est quoi un décideur ? C'est une fonction dans l'entreprise, donc dans une entreprise de plus de 50 ou 100 salariés, qui a une capacité d'engagement budgétaire. Donc c'est dans la direction générale, dans les directions métiers, des responsables opérationnels, mais qui ont un vrai pouvoir d'engagement budgétaire. Et sur ces personnes-là, notre métier, à nous, c'est de collecter de l'information qualifiée qui va vous permettre de rentrer réellement en contact avec elles, au travers du standard, et là, pas le 0800, mais le standard du bâtiment dans lequel ils sont positionnés, l'email direct, et puis, quand on peut, la ligne directe et le détail du parcours. Et par rapport à ça, notre portail s'articule autour de trois fonctionnalités clés. La première, évidemment, une base de données, qui dit base de données dit un moteur de recherche. Donc on a essayé de faire un moteur de recherche le plus performant possible. Ensuite, parce que vous n'avez pas la possibilité de passer votre temps à surveiller l'actualité de tout votre marché, de tous vos prospects, de surveiller les prises de poste dans le carnet des échos, etc., etc., on a mis en place un outil d'alerte business. Donc vous paramétrez vos centres d'intérêt et vous allez pouvoir recevoir ces fameuses alertes qui vont vous permettre d'appeler les personnes au bon moment. Et puis, parce que quand on est un petit qui chasse du gros, on n'a pas forcément tous les outils à disposition. Et donc, on a intégré quelques fonctionnalités clés de CRM pour vous aider à structurer votre prospection. Alors, rapidement, à quoi ça ressemble ? Donc là, c'est une illustration du moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche, on retrouve de manière très classique des secteurs d'activité. Mais pour le coup, on n'a pas mis des codes NAF. On a réellement affecté les entreprises sur leur vrai métier. Par exemple, Total, on ne dit pas que son code NAF, son activité, c'est autre activité de sièges sociaux. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, on dit que Total fait de l'énergie, fait du pétrole, etc. Et puis, on a pré-segmenté également la base. Donc, on vous permet d'aller chercher directement des strates en termes de taille d'entreprise. Vous visez des PME, vous visez des ETI ou vous visez directement des grands comptes. Une fois qu'on a identifié l'entreprise qui nous intéresse, derrière, c'est retrouver l'organigramme. Donc, structurer les différents décideurs qu'on a identifiés sur ces boîtes et les ranger dans des bonnes cases pour vous aider à identifier, vous, quels sont les interlocuteurs pertinents. Et puis, parce que c'est un outil opérationnel, on va vous donner la possibilité de mettre des prises de notes, de structurer en mettant vos propres listes de prospection, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le fil d'actualité. Donc c'est tous les éléments clés qui concernent les décideurs. Des nominations, des départs, des changements de poste à l'intérieur de l'entreprise, des prises de parole en public. Et puis, quand on identifie, nous, des gens qu'on n'avait pas encore dans les organigrammes, ils n'ont pas une actualité particulière, mais on a quelqu'un en rab. Donc là, par exemple, on peut voir que la directrice marketing et communication d'Hello Bank prenait la parole à Strasbourg, il y a quelques temps de ça. Donc pour les Strasbourgeois qui avaient quelque chose à raconter à nos amis d'Hello Bank, c'était peut-être le bon moment d'essayer d'attraper la carte de visite de cette directrice marketing. On parlait des filiales, on parlait de travailler les groupes. Donc là, c'est de la même manière, on vous donne la possibilité, à partir de chaque tête de groupe, d'identifier l'intégralité des filiales pour explorer, identifier des prospects pertinents et essayer de dupliquer des succès. Si vous avez eu la chance de vendre une première fois à l'une des filiales de la BNP, vous avez une super méga référence pour essayer de dupliquer ce succès, non pas simplement à la BNP, mais au sein des 139 filiales de la BNP. Je me dépêche parce que je crois que j'étais un peu bavard. Et puis, pour finir, une fois que vous avez identifié la bonne cible et que vous avez identifié le bon contact, on va vous donner un maximum d'éléments pour vous permettre de vous lancer en termes de prospection. On va vous donner l'actualité du contact. On va vous donner ses coordonnées. On va vous permettre de saisir le résultat de vos appels avec une petite prise de notes et de programmer des rappels. Donc automatiquement, vous n'avez pas réussi à l'avoir, vous allez vous programmer un rappel pour vous aider à structurer votre prospection. Vous définissez vos centres d'intérêt. Est-ce que vos centres d'intérêt, c'est certains secteurs d'activité ? Est-ce que vos centres d'intérêt, c'est certaines fonctions dans l'entreprise ? En fonction de ce que vous vendez, en fonction de votre business, vous savez dire facilement, en fait, qui vous avez envie de prospecter. Donc vous allez définir ces centres d'intérêt et automatiquement, vous allez recevoir des alertes quand il se passe quelque chose sur votre centre d'intérêt. Et quand il se passe quelque chose, on parle vraiment d'alerte business, donc d'événements sur lesquels vous allez pouvoir rebondir pour agir. Le dashboard, c'est simplement votre page d'accueil qui vous donne accès à l'intégralité de l'outil. Donc les contacts et les entreprises que vous avez déjà ciblées, les alertes qui vous sont poussées, et puis vous retrouvez vos prises de notes et vos rappels programmés. Deux mots, parce qu'il faut bien aussi que nous on vive et qu'on est aussi un petit peu là pour faire du business. On a deux modèles économiques, soit un modèle économique d'achat de crédit, donc c'est de la notion de prépayé. Vous achetez des crédits, un crédit égale un contact, et vous les achetez par pack de crédit. Ou alors vous abonnez, c'est sans engagement, 99 € par mois, avec un nombre assez important de crédits pour vous aider vraiment à prospecter. Pour finir, on a essayé de rendre un peu définir une promotion pour ce salon. Donc, ce qu'on vous invite, c'est tester, parce qu'à un moment donné, on parle, mais tester, vérifier que ça fonctionne, c'est toujours plus intéressant. Donc, on vous invite à aller sur le site nomiwan.fr et d'utiliser le code promo salon SME 2016 pour avoir votre premier mois, et j'insiste, sans engagement, votre premier mois à 1 €. Donc, essayez, et je suis sûr que vous allez être convaincu par cet outil. Merci à vous. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure on avait. On a des questions, oui. Je suis désolé, j'ai pas entendu. Ouais. C'est vraiment sans engagement. C'est-à-dire que vous, le premier mois est à 1 euro. Si vous vous n'êtes pas convaincu, vous stoppez votre abonnement en un clic dans l'outil quand vous voulez. On couvre très très bien les entreprises de services. Donc le tertiaire, ça fait à peu près 70% de l'économie. On couvre un peu moins bien l'industrie. On couvre, alors quand je dis un peu moins bien, en volume, parce que l'industrie aujourd'hui en France, c'est à peu près 15-20% du PIB. Et on couvre très très mal l'agriculture. On couvre toute la France. Après, en Corse, par exemple, il n'y a que 50 entreprises de plus de 100 salariés. Donc on ne peut pas les inventer. Donc on est aussi contraint par la réalité du tissu économique. L'Île-de-France concentre 70% de ses chaussures en France. Donc mécaniquement, il y a plus de matière à faire en Île-de-France. Pour autant, toutes les entreprises en région de plus de 100 salariés, on les a. Oui ? Non, en fait, notre outil, on travaille beaucoup sur la notion de qualification, certification de l'information. Donc si vous vous ajoutez un contact, nous on n'est pas sûr de la qualité de ce que vous avez fait. Vous pouvez nous indiquer ce contact, mais c'est nous qui allons prendre notre téléphone, appeler l'entreprise, valider que la personne est bien en poste, valider que son poste c'est bien DAF de cette structure, essayer de lui soutirer son numéro de ligne directe, et à ce moment-là on va le réintégrer dans la base. Non. Oui, je vous en prie. En fait, en l'occurrence, les directions des achats des grands groupes ont des outils dédiés sur ce type de recherche. Et on est plutôt sur la mise en avant de recherche de fournisseurs. Nous, ce n'est pas notre business. Notre business, c'est vraiment de l'aide à la prospection. Tout à fait. En fait, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez votre compte à vie, on n'efface jamais, on n'écrase jamais. Donc si vous arrêtez de payer, simplement, vous ne pouvez plus ouvrir de nouveaux contacts. Par contre, tous les contacts que vous avez achetés et consommés vous restent visibles. Tout ce que vous avez saisi dans l'outil reste disponible ad vitam.
On peut l'intégrer
dans un PRM personnel ? Non, parce que là, dans ces cas-là, on serait en mode vente d'informations. Et il y a beaucoup, beaucoup de contraintes réglementaires, CNIL, etc., liées à la cession d'informations. Notamment, si je voulais vous vendre du contact, je devrais collecter l'accord individuel de chacun des contacts que vous achetez en le disant « Est-ce que vous acceptez que monsieur, je ne connais pas votre nom, mais monsieur acquiert vos données personnelles ?» Puisqu'un nom, un prénom, une fonction dans l'entreprise, ça reste quand même de la donnée personnelle. Donc on ne peut pas vous céder l'information pour des raisons de CNIL et d'agrément de notre base de données. Voilà. Oui, après on se donne le droit de temps en temps de tricher, entre guillemets, d'aller plus bas, notamment sur toutes les entreprises en croissance. Donc toutes les entreprises qui font des levées de fonds, on les intègre directement en base. Pourquoi ? Parce que c'est des entreprises qui, a priori, vont avoir une croissance rapide. Donc on préfère les mettre tout de suite dans notre base plutôt que d'attendre qu'elles soient à 50 salariés. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez y accéder par téléphone, par tablette, n'importe où dans le monde, à partir du moment où vous avez un accès à Internet. En fait, l'information que vous saisissez, elle est saisie uniquement sur votre profil à vous et elle n'est visible par personne d'autre. Même nous, en tant qu'administrateur de la base, on n'y a pas accès. C'est de la donnée personnelle. On couvre assez bien tous les métiers. Après, on est très bon sur les fonctions entre guillemets régaliennes de l'entreprise. Direction générale, DAF, DRH, direction financière, direction des achats, direction commerciale, direction marketing, direction de la communication et maintenant direction digitale. On est un tout petit peu moins fort sur les directions techniques, comme par exemple si vous cherchez un profil extrêmement pointu dans la DSI de Carrefour, on va avoir du mal. Par contre, le DSI de Carrefour et ses 10 adjoints, on les aura. Si, mais quand je vous dis qu'on est, c'est qu'il y a en volume beaucoup moins de personnes qui sont comme ça, enfin qui ont ces titres-là. Mais globalement, de mémoire, on doit avoir 2000 responsables de la R&D, responsables ou directeurs de la R&D dans notre base. Elle dure jusqu'à la fin du mois d'octobre. Sur le site, il y a un petit outil de comptage où vous pouvez choisir soit un secteur d'activité, soit un métier, soit une combinaison des deux. Et l'outil vous donne le nombre de contacts en base. On ne va pas vous mentir, on ne sera jamais exhaustif. On ne pourra pas vous inventer des contacts qu'on n'a pas. Donc on préfère être complètement transparent. Vous avez le comptage en ligne, pardon. Vous faites les combinaisons que vous voulez. Combien vous avez de directeurs de l'R&D en biotech? On va vous donner un chiffre. Alors le chiffre, ce ne sera pas énorme. Mais par contre, ces gens-là, on sait qu'ils sont en poste. On a la garantie de leur véritable métier. Et on a des coordonnées pour les joindre. On couvre les dom-toms, mais pas très bien, parce que là encore, c'est une histoire de concentration et de niveau d'activité économique. Dans les dom-toms des entreprises de plus de 50 ou 100 salariés, en dehors de l'administration, malheureusement, il n'y en a pas assez.
Et quelle est la périodicité d'actualisation ?
On appelle chacun des contacts présents dans notre base tous les 10 mois maximum. Donc on a à peu près 200 000 contacts en base, donc on passe 180 000 coups de fil par an, à peu près, de mise à jour. Non, nous, notre métier, c'est plutôt la France. On identifie des décideurs en France. Donc si la personne est basée en France, elle nous intéresse. Si son périmètre d'intervention, c'est la France, elle nous intéresse. Par exemple, on a quelques décideurs qui sont basés en Angleterre, mais qui ont comme zone d'intervention la France. C'est par exemple le cas de certains groupes américains qui ont un quartier général Europe en Angleterre, mais avec des gens dédiés à la France. Donc ces gens-là, on les aura. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous invite à aller sur le site, à vous inscrire. Ça prend normalement moins d'une minute pour s'inscrire. Utilisez le code promo. Si vous ne voulez pas utiliser le code promo, de toute façon, quand vous vous inscrivez, on vous offre vos 5 premiers crédits pour commencer à tester l'outil. Donc essayez. On a la conviction que c'est un outil qui peut être efficace, qui peut vraiment vous faire gagner du temps. Et quand on est patron d'une petite boîte ou indépendant, le temps, c'est à peu près ce qui vous manque le plus. Donc je pense qu'investir un petit peu dans ce type d'outil pour vous faire gagner du temps, c'est une vraie bonne idée. Merci beaucoup. Ah. Vous pouvez faire le test quand vous voulez. Ah, le premier mois, c'est à partir du moment où vous inscrivez, vous activez votre code. Donc, vous avez jusqu'au 30 octobre pour activer. Une dernière question ? Alors, nous, notre métier, c'est plutôt d'aller trouver des petits qui chassent des gros, donc des clients, a priori, peu connus. Aujourd'hui, il y a 630 entreprises qui sont inscrites sur le site. Alors des connus, il n'y en a pas vraiment. Il y a des petites agences de communication, il y a des experts comptables, il y a des avocats, il y a des consultants. Il y a beaucoup de métiers de consultants, donc il y a plein de consultants divers et variés. Il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des imprimeurs. Il y a tous ceux qui sont plutôt petits et qui visent plutôt des moyens et des gros. On a quelques start-up, on a un partenariat avec certains incubateurs de start-up. Donc on a un peu de tout, mais pas vraiment des connus, parce que globalement, quand nos clients seront connus, ils n'auront plus besoin de nos services, ils auront besoin d'un service beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. Donc nous, on n'est pas très clinquant, on ne peut pas vous mettre plein de logos de clients connus. Par contre, on a quelques témoignages de nos premiers clients qui ont accepté de dire quelques mots sur l'outil. Là encore, c'est présent sur le site. Lisez-les, regardez-les, ça peut vous donner des idées. Alors, l'outil a été lancé en bêta en février et a un lancement commercial un peu important depuis la rentrée, depuis septembre. NomiOne, en fait, c'est une filiale de nomination, et nomination existe depuis 14 ans. C'est ça. 14 ans qu'on appelle plein de gens tout le temps pour qualifier de l'information. C'est un métier difficile, mais on a à peu près 40 personnes qui, toute la journée, appellent des entreprises, appellent le standard, disent « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Machin, le directeur bidule ?»« Ah, il n'est pas directeur bidule, excusez-moi. Alors, c'est quoi son titre exact ? Merci. »« Ah, il a quitté l'entreprise. Est-ce que vous savez où il est allé ?»« Non, tant pis, on inactive. »« Qui est son remplaçant ? Est-ce que je pourrais être mis en relation avec son remplaçant ?» Donc, c'est des gens qui font ça toute la journée. qui font ce travail de qualification, qui mutualisent finalement cet effort de qualification au profit et au bénéfice de nos clients.